Les souvenirs dans nos vies apportent autant de diamants que de rouille. Quand je me retourne et regarde la vie que j'ai eue, j'ai du mal à imaginer que tout ça me soit arrivé. J'ai dû me battre pour soigner la douleur, comprendre comment transformer en force ces blessures apparues à l'aube de ma vie, comme des taches de naissance que l'on porte à jamais sur soi. Pour m'en dépêtrer, j'ai dû courir après la chance. Que l'on n'attende pas de mes souvenirs qu'ils aient un ordre. Je suis fait de tout et par tout ce que j'ai dérobé à la vie. Mes rêves, mes joies, mes douleurs tournent dans mon esprit, dans une ronde infinie. Richard Peduzzi est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Je l'ai déjà joué demain ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ce sera Lucio Dalla.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Pensez-vous dans la vie, Richard Peduzzi, qu'il faut savoir saisir sa chance ?
Ah, je pense absolument. C'est même presque, c'est un leitmotiv pour moi. Aller au devant de la chance, quoi. Aller au devant de la chance, ne pas la laisser passer. Regarder toujours devant soi. Pour moi, la chance, je ne crois pas tellement au hasard. Je crois vraiment aux choses écrites. C'est ma croyance à moi.
Vous voulez dire au destin, alors ?
Au destin. Rodin, quelqu'un demandait à Rodin s'il était croyant, s'il était religieux, tout ça, et il disait non, je crois pas au balbutiement des prières, mais je crois qu'il y a quelque chose, et je crois que ce quelque chose, c'est à nous d'essayer de l'approcher au plus près, en fait, d'aller au plus près des choses et de ne jamais laisser passer les opportunités. C'est parfois difficile. C'est parfois difficile parce que parfois on pense. Chez moi, ce qui revient, c'est l'idée de l'autodidacte, quoi. Et que, en fait, l'autodidacte est à la périphérie des choses, à la périphérie du monde. Je pense encore maintenant, après toutes ces années de recherche, de travail, de joie, de tristesse, après toute une vie, quoi. Je pense toujours que l'autodidacte est un peu un usurpateur. C'est-à-dire qu'il prend la place de quelque chose qui lui appartient pas vraiment. Autant dans le travail que je disais toujours ça à Patrice Chéreau, qui était mon grand grand ami, et c'est drôle parce que il est parti en 2013 et il y a rien à faire. Je n'arrive pas. Je suis pas triste comme ça. Je veux dire, mais je suis profondément atteint par cette disparition. Et d'ailleurs, je rêve très très souvent de lui encore maintenant. J'y peux rien. C'est comme ça. Et je me dis, c'est une chance au fond, ça aussi. C'est une chance parce que c'est une façon. Parfois on s'engueule dans les rêves, parfois on plaisante, parfois il me regarde de travers quand je... C'est presque comme une... C'est pas une psychanalyse, mais c'est quelque chose de... C'est une discussion comme ça qui fait partie de l'âme, et dont je m'explique pas très bien pourquoi, parce qu'en fait, bon, Patrice c'était pas... Non, il est parti, je suis absolument effondré, je me suis dit, ce départ ne doit pas signifier pour moi la fin de quelque chose, mais au contraire le début de quelque chose, malgré toute la douleur que ça m'a provoqué, et que ça me provoque toujours. Je veux dire, il me manque terriblement, surtout en ce moment, quand on est dans une période où on sent bien autour de soi que les gens comprennent pas très bien ce qui se passe, qu'ils savent pas vers quelle direction se tourner, qu'ils sont toujours... ils contestent quelque chose dont ils n'ont pas vraiment toujours... l'idée de pourquoi ils la contestent, ils veulent parfois régler des comptes, ce qui me peine. Je trouve qu'on est dans une période en même temps parfois affligeante, mais très intéressante quand même, parce qu'elle est à l'aube de quelque... Il y a un âge qui s'en va, et un autre qui arrive. Alors ça aussi, il faut saisir ce qu'il y a de passionnant dans ce qui nous arrive, je crois.
Dans ce livre magnifique qui sort en ce moment, qui s'intitule « Je l'ai déjà joué demain », allusion donc
à un moment
extraordinaire de l'histoire du jazz.
Absolument, ouais. C'est un moment où je crois que Miles Davis, les plus grands, quoi, il y avait Coltrane, Miles Davis et Charlie Parker, ils répétaient ensemble dans un studio, et tout à coup, tout le monde s'arrête pour entendre Bird, Charlie Parker, jouer. Comme ça, ils sont tous émerveillés. Sauf lui qui prend une crise de colère, qui attrape son saxophone, qui le jette par terre et qui dit ça, je l'ai déjà joué demain.
C'est pas mal comme programme.
C'est formidable. Charlie Parker est un musicien hors du temps. Je dis pas que j'aime tout le jazz, mais j'aime cette période du jazz où il y avait comme ça ces espèces de génies qui étaient Coltrane, Miles Davis, Bud Powell, que j'ai très bien connu à Saint-Germain, et aussi évidemment Bird et Duke Ellington et tous ces gens-là.
Mais cette idée de « je l'ai déjà joué demain » veut quand même signifier qu'il y a une espèce de contraction du présent, du passé et de l'avenir.
Absolument. Et c'est ce qui m'a passionné dans ce livre. Enfin, d'écrire ce livre, c'est ce qui m'a passionné, ce qui a été en même temps
douloureux. C'est une navigation à vue, voilà, dans toutes vos mémoires, Richard Peduzzi.
C'est ça, je voulais absolument chavirer dans toutes les mémoires. Et je voulais m'embarquer, en fait. C'est presque un scaphandrier, aller dans toutes les profondeurs possibles, inimaginables. Parfois, la mémoire dévie tout et joue avec la vérité. Parfois, c'est pas vrai ce que je raconte. C'est comme un dessin.
Ah bon? Moi, j'ai cru que tout était vrai.
Non, mais tout est vrai. Mais parfois, il y a des petites exagérations. Quand on dessine, par exemple, on a un modèle.
Vous êtes venu avec vos crayons, vos stylos
toujours,
et vos carnets.
Ils sont toujours là. Ils sont toujours à côté de moi. Ouais. C'est des copains. Quand on dessine, parfois, on se fixe un but et puis on s'aperçoit qu'on va un peu plus loin avec le crayon, avec la pensée, avec la main, avec tout ça. Et je pense que dans les écrits, évidemment, tout est vrai dans le fond. Tout est vrai. L'enfance, les machins, le terrain vague, le Havre, les bombes, le danger, le bordel de la grand-mère. Enfin, absolument, tout est vrai.
La mère arrêtée parce qu'elle a vu une histoire d'amour avec un Allemand.
La mère arrêtée parce qu'à 19
ans,
elle avait une histoire d'amour avec un Allemand qu'elle trouvait beau et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Elle a fait 10 ans de prison. Donc, tout ça, c'est vrai. Mais parfois, un mot ou une phrase enjolive ou aggrave une situation. C'est ça que je veux dire dans vrai ou pas vrai.
En tout
c'est
cas,
la mémoire.
Les déchirures de l'amour, Richard Peduzzi, entre votre père et votre mère, ça c'est vrai.
Complètement. Mais si vous voulez, c'est des déchirures qui en temps normal, c'est-à-dire pas en temps de guerre, auraient été pratiquement des déchirures qui arrivent, quoi. C'était, voilà, ils se sont connus, ils avaient 18 ans, ils se sont aimés, je pense, follement, sans comprendre ce qui leur arrivait, tout en comprenant, comme est l'amour, quoi. Et puis je suis né, et puis chacun a eu sa vie, et ma mère s'entendait pas, je pense que c'est ma mère qui ne s'entendait pas avec mon père. En plus, mon père était très artiste, très indépendant, donc ça devait pas être facile à vivre non plus. Voilà, je les ai jamais connus. En fait, je les ai jamais connus ensemble, quoi. Et donc, c'est quand même quelque chose qui, c'est quand même quelque chose qui manque, quoi. C'est quelque chose qui te poursuit comme ça, qui fait partie de ta peau, qui te poursuit toute ta vie, je pense.
Il y a les désillusions de l'amour aussi, c'est-à-dire que quand votre mère sort de prison, qu'elle se reconstruit une vie avec un autre homme, qu'elle décide de tenir un restaurant avec son nouveau mari,
oui.
Vous êtes un bon fils, Richard Peduzzi. Elle vous demande, alors que vous auriez pu passer des vacances avec des copains au bord de la mer, elle vous demande de venir faire le service dans le petit restaurant.
Oui, maintenant quand je vois ça, comme ça, je crois que c'était une maladresse de sa part. On avait inconsciente, on avait peur l'un de l'autre, je crois. C'est-à-dire qu'on avait été tellement séparés pendant ces années. Je l'avais vu à travers des grilles, je l'avais vu, tu vois, il y avait une distance d'au moins 5 mètres, un couloir immense qui nous séparait, je la voyais à travers ces choses-là. Puis quand je l'ai revue, je sentais qu'elle avançait vers moi à reculons, quoi. Mais elle avait peur, simplement, de se trouver en face d'un fils dont elle rêvait, mais qu'elle connaissait pas, et quand c'est avéré réel, quand cette réalité-là lui est apparue aux yeux, qu'elle allait me toucher, qu'on allait s'embrasser, elle a paniqué, moi aussi, on a paniqué tous les deux. Et quand on s'est retrouvé à Étretat, plusieurs années après, tout ça, et que je me suis vu à la plonge dans la cuisine, et alors que j'avais envie que d'une chose, c'était de jouer sur les falaises et sur la plage, et que j'étais tombé amoureux d'une jeune fille qui devait avoir 14 ans, comme moi, je comprenais pas. J'étais à nouveau pris au piège dans une sorte de prison. C'est comme si ma mère avait voulu dire, m'a voulu me faire comprendre, tiens, regarde, voilà ce que c'est, ce que j'ai vécu. C'est enfermé, là, tu vois. C'est pas dehors. T'as pas à être dehors. Moi, j'ai pas été dehors. Elle s'est pas dit tout ça, hein. C'est moi qui invente. Voilà ce que ma mémoire me fait dire. Et puis, en fait, j'ai toujours autant d'amour et de respect pour elle.
C'est terrible quand vous racontez la fin de votre mère.
Oui, c'est épouvantable, et je n'en revenais pas moi-même.
Donc il faut un peu expliquer aux auditeurs, elle est allée de Caribe en Silla, elle s'est retrouvée dans un petit hôtel.
Elle s'est retrouvée dans un petit hôtel misérable, rue du Colisée, où elle m'a demandé, après on ne s'était pas vu depuis plusieurs années, moi j'avais la vie avec Pénélope, ma femme, les enfants, tout ça, mon travail, des trucs, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait là. Donc je suis allé la voir. Je sentais profondément que c'était ma mère, mais c'était comme si c'était quelqu'un, une personne étrangère. Donc, me demandant de l'aider, de prendre l'hôtel sous ma responsabilité, tout ça, je voyais que c'était pas clair, quoi, comme histoire. Je pouvais pas le faire. J'aurais adoré lui rendre service, je pouvais faire quelque chose, mais je pouvais pas faire ça parce que je mettais en danger toute la partie de ma vie, quoi, de ma famille. Et donc ça, il n'était pas question. Ma famille, je me l'étais composé, fait moi-même, donc c'était ma famille, quoi. Mais ma mère, ça restait ma mère, et j'étais quand même très, très, quand je suis parti, je crois que j'ai fait un truc absolument invraisemblable. J'y suis allé en taxi, et j'ai demandé je sentais mal ce moment, j'ai demandé au taxi de ne pas fermer le compteur. C'est-à-dire que je suis resté 10 minutes, et je suis reparti avec le même taxi. Donc, très, 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 très tourmenté, très bouleversé, puis je l'ai plus revu. Dans ma vie, il m'est arrivé de diriger, c'est absolument hallucinant, ça fait partie du livre, de diriger l'école des arts décoratifs, alors que j'avais été recalé au concours parce que j'avais pas donné les dessins à un temps voulu. Donc, j'étais à ce moment-là directeur des arts de l'école, et mon assistante me dit que quelqu'un de la mairie de je ne sais plus où avait téléphoné pour expliquer que ma mère était dans une situation absolument épouvantable. Donc évidemment, mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort et elle me dit, j'ai pas voulu vous la passer, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai appelé cette personne qui m'a dit, non, c'est mieux que vous veniez pas, pour le moment, parce que vous seriez très déçu, vous seriez déprimé, vous seriez tout ça. Enfin, elle m'a raconté tout un tas de trucs, je comprenais pas bien. Et elle me dit, mais vous savez, elle est là depuis 3 ans chez nous, et personne n'a réglé sa chambre, en gros, sa présence. Donc, il y a que vous de solvable dans la famille. Alors, moi, tout à coup, je me suis dit, mais attends, de quoi on parle, là? Et j'ai compris qu'en fait, elle me réclamait de payer ses 3 ans. Alors, j'ai demandé conseil à une amie. J'ai pas pris un avocat, mais j'ai demandé conseil à une amie avocate pour comprendre ce qu'il fallait faire et tout ça. Encore une fois, je voulais pas mettre en danger. Enfin, je voulais pas risquer n'importe quoi vis-à-vis des miens, quoi. Et j'ai compris une chose. J'étais avec ma fille au Festival d'Aix. À ce moment-là, j'avais fait les décors pour le Tour d'écrou avec Luc Bondy. Et tout à coup, le téléphone sonne. Je réponds, c'était mon ami avocat qui me dit, j'ai eu des nouvelles par la mairie de machin. Votre mère est morte depuis 15 jours. Donc j'ai compris qu'en fait, quand on me réclamait cet argent, ma mère était déjà morte, quoi. C'est pour ça qu'on voulait pas l'avoir. Donc super choc, là. Super choc, je ne savais plus, comme on dit, je ne savais plus comment je m'appelais, quoi. Heureusement, il y avait Antonine, ma fille, qui est la vie, quoi. Et elle m'a, j'ai pas regardé la générale. Enfin, j'étais présent, mais j'ai rien vu de la générale du Tour d'écrou. Et après, je suis parti avec Antonine dans Aix prendre un verre et on a parlé de tout ça et tout. Voilà. Donc c'était très compliqué, je me suis dit, là il y a vraiment, l'absence est là, quoi, ça y est. Avant il y avait toujours un espoir que quelque chose se répare. Et là, ma mère, c'était pas comme Chéreau, c'était le contraire. C'est-à-dire Chéreau, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé, bâti quelque chose et tout ça. Ma mère, c'était l'absence de bâtir, quoi, qui nous avait manqué. C'était un paysage en ruine, c'était qu'il fallait reconstruire et qu'on n'a jamais construit, quoi, qu'on n'a jamais reconstruit. Donc un manque.
On a le cœur chaviré, Richard Peduzzi, en lisant ce livre, parce qu'on comprend bien que depuis l'aube de l'enfance, vous avez été désorienté dans tous les sens du terme, géographiquement, familialement, psychiquement. Vous êtes né dans une ville qui a été détruite par la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vécu cette destruction et pas forcément cette reconstruction. Et puis ensuite, vous êtes parti dans l'adolescence dans des zones un peu dangereuses.
Oui.
La drogue.
Bien sûr, oui. Je ne conseille à
l'oubli
personne.
L'oubli de soi.
L'oubli ou aller chercher plus loin, aller chercher soi plus loin. Mais je conseille ça à personne. Hein. Mais je dois dire que tous ces sauts d'obstacles que j'ai eus depuis le début de ma vie, finalement, ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé parce que avec le métier que je fais, tout le monde n'a pas la chance de faire ce métier, tout le monde n'a pas la chance de travailler au théâtre avec les gens avec qui j'ai travaillé, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir lire, dessiner, se nourrir à nouveau de quelque chose de neuf, comme ça. Donc, je dois dire que toute cette débâcle m'a, puisque j'en suis sorti, et ça encore une fois c'est la chance vraiment, j'aurais pu très bien rester dans, combien d'amis à moi qui fréquentaient le boulevard Saint-Germain à cette époque-là ont disparu très jeunes, à 20 ans, quoi. Voilà.
Donc, que vous a apporté cette expérience des limites, parce que vous la décrivez comme une expérience un peu de poète voyou.
C'était un peu ça. Et en même temps, j'avais une fascination pour les voyous et je les détestais. J'aimais pas leur façon de faire, quoi. J'aimais pas leur vulgarité. Je crois pas à la noblesse du voyou et à tout ça et à l'honneur et à toutes ces questions dont on parle dans les films de Gabin ou des dialogues d'Audiard. Non, je crois pas trop à cet honneur-là parce que j'en ai pas rencontré un seul qui n'était pas prêt à tout, quoi, en fait, à tout pour rien, parfois pour rien, pour. Et ces gens-là, je les fuyais, ils me faisaient peur. J'avais une chance avec moi, c'était quand même que j'étais fou du dessin, j'avais envie de dessiner, j'avais envie de travailler, j'avais envie de faire des choses. Et je me disais, ce moment-là, dans la rue, avec tout ce monde-là, c'est un passage, quoi. C'est un passage qui va m'apprendre des choses. Va savoir pourquoi je pensais à ça, je sais pas. Je sais pas, et en même temps, je me disais, un homme, quelqu'un doit aller au bout de soi-même. Pour moi, le bout de soi-même, c'était au bout des conneries, quoi, en fait. C'était au bout de n'importe quoi.
Je vous propose d'écouter la voix de Georges Bataille à propos de l'art et de l'angoisse. C'est une archive INA du 19 septembre 1953.
Ce que je pense essentiellement à ce sujet, c'est qu'au fond, il y a chez les hommes une avidité d'angoisse extraordinaire, mais que c'est une avidité qui a des conséquences pénibles. Et en somme, lorsque ces conséquences arrivent sur le champ de bataille, déjà, elles sont très, très pénibles, et l'on ne peut pas s'étonner que l'art ait eu un terrain de développement plus propice. En général, l'angoisse dont l'humanité est si avide, elle a cherché à se la donner un meilleur marché que sur le champ de bataille, et grâce à cela, l'art a pu connaître un développement plus profond. Il est évident que si l'angoisse du champ de bataille qu'exprime et que libère la trompette guerrière est sensible dans les esprits humainement les plus simples, il n'en est pas de même de ces formes d'angoisse qui ont abouti à la grande poésie ou à la tragédie.
Mais Bataille, vous dites que l'humanité est avide de se jeter dans l'angoisse, en quelque sorte de créer sa propre angoisse, et qu'alors l'art serait à la fois un moyen de créer l'angoisse et un moyen de l'exorciser. Est-ce cela ?
De la chercher.
Oui.
Parce qu'en somme, si un poète tragique se propose un thème tragique, il ne crée pas l'angoisse, il la cherche, il la dégage d'un effort assez pénible
et il la rend inoffensive.
Nous venons d'entendre Georges Bataille qui parlait de l'art et de l'angoisse. Quand on lit votre livre, Richard Peduzzi, puisque vous êtes devenu un artiste à la notoriété internationale, vous avez travaillé dans tous les plus grands théâtres du monde, que ce soit pour des mises en scène de théâtre ou d'opéra, avec les plus grands metteurs en scène européens, on a l'impression que votre vie, elle est trouée par l'angoisse. Une angoisse objective, puisque vous avez consciemment risqué votre propre existence, mais une angoisse aussi existentielle qui vous tombe dessus de temps en temps et qui vous empêche de respirer.
Oui, c'est vrai. C'est drôle que vous ayez passé ce texte de Bataille, parce que je viens de terminer Le Manet de Georges Bataille, qui est un livre absolument magnifique, et ce qu'il dit là est formidable, quoi. Alors, l'angoisse me tombe dessus. Oui, elle est...
N'importe où, sur une plage ou dans les rues de Paris, n'importe où.
Surtout sur une plage, c'est drôle. Surtout dans des endroits très très beaux, comme je l'écris là, au Monte Argentario en Toscane, où on est tellement coincé, traqué par la chaleur, la beauté, la mer, le soleil et tout ça. Je n'ai pas compris pourquoi, mais à chaque fois, dans cet endroit, et que ce soit en plein été, je me sens pas bien. Je me sens comme étouffé, prisonnier par le temps. C'est la fin de l'année, pour moi, c'est le septembre qui va commencer. Là, septembre, ça va mieux déjà. Mais le mois d'août, j'ai l'impression que tout est abandonné, que même les chiens, les vieux, tout ça, on laisse tout, et qu'il n'y a plus, et qu'on est seul. Et j'ai connu des grands moments de solitude, et pourtant, je travaillais sur des décors, sur des dessins, tout ça, très souvent, pendant les vacances, comme ça. Toute ma famille était content, ils se baignaient tous, ils allaient se promener, ils bronzaient, tout ça. Et moi, j'étais un peu isolé dans une pièce, comme ça, les volets fermés, avec une lampe à dessin allumée, en pleine chaleur. Et tout à coup, j'étais saisi par la fatalité, par la mort, par il me restait plus de temps à vivre, par l'étouffement, par la cage, par la prison. Ça vient évidemment quand même, je le sais pas, mais ça vient évidemment du fait d'avoir vécu cet enfermement de ma mère très enfant, quoi. Je pense que même avant la naissance, dans le ventre de sa mère, on se souvient de quelque chose, quoi. C'est obligé. Donc voilà, c'est vrai que je suis fait j'habite avec l'angoisse, mais je m'en moque beaucoup souvent.
Et vos amis se moquent de vous aussi?
Bien sûr, parce qu'ils me disent « Attends, tu vas pas recommencer à nous empoisonner ».
Alors le déclic de la sortie de cette vie de voyou poète avec la drogue, ça a été quand même l'amour de la beauté, le fait que vous aimiez bien... Vous ne pouvez pas vivre sans dessiner, vous aimez bien les beaux tissus, vous aimez bien les tentures, vous aimez bien le bois, vous aimez bien le marbre,
tout ça.
toucher la beauté, essayer avec des matériaux que vous aimez faire et construire de la beauté, ça vous a permis, même si la chance a joué là aussi objectivement une très grande partie, ça vous a permis de rencontrer les gens avec qui vous allez devenir un compagnero de beauté.
Mais vous savez, la chance, il faut quand même travailler, quoi. La chance, c'est pas la chance.
Il faut travailler la chance. Bah, il faut travailler tout court.
Il faut travailler la chance. Il faut vraiment beaucoup travailler. Encore une fois, l'autodidacte, il est sans armes, quoi. Il a pas la culture des autres. Il a pas lu les livres dans l'ordre comme les autres les lisent quand ils vont à l'école. Il a pas les mots non plus. Il a pas tous les mots. Parfois, en écrivant ce livre, je me disais, mais tu manques de vocabulaire, quoi. Et quand je dessine, comme je me suis dit, au fond, t'aurais dû faire un peu plus de dessin académique. Vous voyez, tout ça, ça me revient encore maintenant. Et en même temps,
mais c'est peut-être ce qui a constitué votre patte, votre originalité, Richard Peduzzi, c'est le fait de ne pas avoir appris et d'avoir tout inventé. Je finis par
croire que c'était précieux. Et je finis par croire que c'est comme dans les livres de Faulkner. Mon fils Nicolas, qui est autodidacte aussi, qui a traversé aussi, pourtant il était en famille, des crises comme ça, fait absolument des films magnifiques en ce moment. Et voilà, et je trouve ça bouleversant, quoi. Et pareil, il a appris tout seul, quoi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Richard Peduzzi, Mac Miller, Diablo. When I drop flows, bar gets raised up. It's me and Petey Pablo. Colder than gazpacho, colder than the mano. Rapping head honcho, rocking shows like I was Bono. I go, play a couple keys on the piano. The industry a lie, all the promises were hollow. Follow me, I can show you where we bees at. How'd I get my G pass? None of your fucking beeswax. These raps bring a joint together like a kneecap. Fuck the little eight ball, show me where the keys at. Time continuum, Mortal Kombat finish them. Trying to find a balance, reaching for my equilibrium. Fools, I pity them. I'm not a human, I'm amphibian. Fake superhero like the Mystery Man. I ain't saving nothing. I'm getting faded till the angels come and skipping all the famous functions. How do the famous function? The A-list can't be trusted. I strong arm them like I play the trumpet. The bottom barrel of society. I tell my bitch if she don't love me, then just lie to me. I'm finer than the winery. Take it from the rich, this is piracy. Finally, I don't even need my fucking eyes to see. Come and die with me. Cause everybody got dead homies. Everybody got their homies. Yeah, said everybody got their homies. Said everybody got their homies. Yeah, okay, my mind is Yoda, I'm on Ayatollah. These other rappers just a diet soda. I find Jehovah in the darkest places, empty as apartment basements. This a marathon, gentlemen, go ahead and start the races. Save the coffin spaces. But come up missing, tell your bitch that you've been tripping, now you on vacation. Rapping like it's automated, lights I keep them on like Vegas. Lava making, so hot I'm turning hog to bacon. Only God can save him, I heard the monsters made him. I ain't a star, I'm way farther with the constellations. Contemplating suicide like it's a DVD. Lost inside my mind, it's a prison, homie, leave me be. You can see me bleed, I be with the freaks and geeks. Bitch, I never miss a beat, I'm Charlie Conway, Triple D. Gordon Bombay in these streets, ballin' like I'm Pistol Beat. Been a beast, every word I spit rewriting history. Look at what you did to me, look at what you did to me. Running to the underworld with guns and set the sinners free. No bitches in my circle, I'm gonna show you the commercial. I've been popping like a colonel, reading Justin Bieber's journal. Treat you like a urinal. Cause everybody got their homies. Said everybody got their homies. Yeah, said everybody got their homies.
And so, I think a painter, if he's going to attempt,
c'est pourquoi je pense qu'un peintre, s'il cherche à enregistrer la vie, doit le faire d'une façon bien plus intense et abrégée. L'œuvre doit avoir l'intensité de ce que l'on pourrait appeler une simplicité sophistiquée. Je veux dire, vous devez abréger. Vous devez en faire un concentré d'intensité. Tant d'autres façons de le faire existent, se contenter de réaliser une illustration n'a aucun intérêt. On parle des points extrêmes du réalisme. Mais d'une certaine façon, seuls ces points extrêmes sont intéressants. Les techniques du cinéma et toutes les autres formes de témoignage étant de plus en plus sophistiquées pour le peintre, cela rend l'exercice plus passionnant. Mais d'une certaine façon aussi, le peintre est obligé d'être plus concis ou plus inventif. Afin de pouvoir transmettre le réalisme, il doit le réinventer. Il doit purger sa notion du réalisme de tout a priori, le remettre en prise directe sur le système nerveux, par les seuls moyens de son imagination. Parce qu'en peinture, le réalisme naturel n'existe pas. Il doit être réinventé.
Nous venons d'entendre la voix de Francis Bacon qui donnait sa définition du peintre. C'est une archive de 1985, issue de sa magnifique conversation avec David Sylvester.
Magnifique livre, oui.
Magnifique livre, Richard Peduzzi. Et si nous vous avons proposé d'écouter la voix de Francis Bacon, c'est parce qu'il apparaît au détour de plusieurs pages dans votre livre. Je l'ai déjà joué demain.
Oui.
Et il apparaît dans un moment, je trouve, absolument bouleversant, parce que ça, c'est le côté Peduzzi de nuit, le Peduzzi des bars, le Peduzzi qui va dans des endroits un peu malfamés et qui peut aller au bout du monde, même si quelqu'un qu'il ne connaît pas depuis 2 heures lui propose d'aller au bout du monde, parce que il faut toujours saisir sa chance. Et un jour, vous allez rencontrer dans un bar pas très bien, enfin, la mauvaise réputation.
Un bar de nuit à Londres, oui.
Voilà, un bar de nuit à Londres, qui? Francis Bacon.
Absolument.
Et qu'est-ce qu'il va vous dire, Francis Bacon?
on commence, c'est-à-dire qu'il était avec quelqu'un qui était la femme de David Sylvester, qui était un grand spécialiste de l'impressionnisme, je crois, et que j'avais rencontré, elle, chez Suzanne Merleau-Ponty, la mère de Marianne Merleau-Ponty.
Et la femme de Maurice, donc.
Et la femme de Maurice, donc. Et elle parlait cette dame parlait avec Bacon. Et elle me voit, elle me dit, prenez un verre avec nous, tout ça. Bon, moi, j'étais très impressionné parce que je voyais le maître et tout ça. Et puis, elle commence à lui raconter ce que je fais. Et puis, elle lui dit que j'avais fait les décors pour la tétralogie à Bayreuth. Et alors, lui me dit, on avait déjà bu 3-4 whisky. Hein. Lui me dit, mais je déteste tous les décorateurs sauf vous. Alors, venant de Bacon, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, non, vos décors, ça nous amène ailleurs, c'est profond, c'est tout ça, c'est pas des décors et tout ça. On est resté ensemble jusqu'à 6-7 heures du matin à boire des verres et puis on s'est quitté sans se dire au revoir, je crois, comme ça. Je l'ai plus jamais revu, donc. Mais c'était une rencontre un soir, comme ça.
Mais je n'aime pas les décorateurs de théâtre, mais vous. Vous n'êtes pas parmi les décorateurs.
Ben, c'est ce qu'il avait voulu. Peut-être.
D'ailleurs, je ne sais pas comment vous qualifiez-vous professionnellement, même si vous avez, en tant qu'autodidacte, occupé les postes très importants,
ouais, aussi,
d'école,
de la Villa Médicis,
ouais. etc. Bon, on peut dire que c'est de la chance, mais c'est peut-être aussi la reconnaissance de vos compétences.
Probablement.
Et de votre talent, Richard Peduzzi, mais. Décorateur de théâtre, je suis pas sûre que ça soit ça.
Non, mais je crois pas que ce soit ça non plus.
Accompagnateur de rêves.
Je crois pas, c'est-à-dire c'est pour
comment
moi,
vous qualifieriez-vous
la première fois où j'ai écrit quelque chose sur mon travail, c'est à propos du ring, dans l'histoire d'un ring, où je dis construire ma peinture. Donc en fait,
constructeur de peinture.
En fait, c'est faire des dessins et les aboutir, les dessins comme des dessins, des vrais objets, des peintures, des aquarelles, des huiles, tout ça. Et puis après, c'est m'amuser avec des bouts de carton, avec des maquettes, à en faire des choses qui seront des murs de carton, des murs de papier, qui vont faire 10 mètres de haut, qui vont se promener sur le plateau et tout ça. Et puis. Par la suite, m'occuper de mettre en scène des grandes expositions de très grands artistes, comme Mantegna, comme Le Siècle de Titien, comme des contemporains, comme Pennon à la Villa, ou comme Kiefer. j'ai l'impression que je fais à travers plusieurs métiers un seul métier quand même. C'est celui de dessiner, c'est celui de peindre, c'est celui de réaliser. Et je peux pas dire artiste. C'est difficile de dire artiste parce qu'il y a tellement il y a très très peu de grands artistes qui restent dans l'histoire de l'art. Je me vois plutôt comme artisan. Je sais que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin de lire, que j'ai besoin de faire des lignes d'écriture et de dessiner ces lignes d'écriture aussi. J'arrive pas. Mais Chéreau disait toujours, mais t'es pas décorateur. Tu vois, c'était autre chose. Et parfois, il me disait, mais enfin, c'est quand même un décor. Et moi, je lui dis, oui, on doit quand même faire un décor. Donc, ça a jamais été clair pour moi. Ça a jamais été clair. Et longtemps, je peux le dire maintenant, comme j'avais un peu renoncé à la peinture chez moi, tout seul et tout ça, longtemps j'ai dit, les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais? J'osais pas dire que je travaillais au théâtre et que je faisais des décors de théâtre. Pour moi, ça rabaissait quelque chose qui est idiot. Je dis, non, je suis peintre. Alors là, j'étais mortifié parce qu'ils voulaient voir mes peintures et donc j'avais pas grand-chose à leur montrer. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit, bon, je fais des décors de théâtre et j'adore ça et je ne changerai pour rien au monde. Voilà.
Et pourtant, au cours de ces pages, dans ce livre, Richard Peduzzi, à un moment, vous réfléchissez à ce que c'est qu'un théâtre. Vous avez passé tellement de temps.
Oui.
C'est une boîte noire, elle est fermée. Oui. On attend le noir pour que le spectacle commence.
Oui.
Et vous, qui avez accompagné les metteurs en scène les plus importants, vous vous dites finalement, est-ce que sur le plateau, est-ce qu'il y a besoin d'un décor ?
J'ai un vrai souci, comme on dit, c'est de protéger le vide. Quoi, c'est de pas le déranger, le vide. On a besoin du vide, on a besoin d'air, on a besoin de l'espace autour de nous. Et parfois, je me dis, mais à quoi ça sert de faire un décor là-dedans? Souvent, je suis resté assis le matin dans une salle déserte, comme ça, le matin dans une salle déserte, et j'allais me promener sur le plateau, puis je revenais m'asseoir, je regardais l'espace, cette espèce de volume, comme ça, et je me dis, au fond, tout est dit là-dedans. Dans ce cube, dans cette cage de scène. C'est une cage. Et pour moi, la cage, c'est le lieu des évasions. Alors, une cage, c'est, on s'évade d'une cage. On a envie de partir, on a envie de s'enfuir, comme tous les oiseaux, comme tout le monde. Comme ma mère, en cage, avait envie de partir. Et de cette cage, effectivement, je me suis dit, mais ce serait quand même bien, dans la cage, on a besoin d'un banc, on a besoin de lieux où se retrouver, où se raccrocher, pourquoi pas. Et petit à petit, j'ai toujours essayé de faire des constructions de murs qui se parlent entre eux, qui soient des acteurs, sans déranger le vide, en laissant la place aux acteurs justement pour bouger autour, pour se promener, pour évoluer autour. C'est les seuls moments où je fais de la mise en scène, je veux dire quand je dessine. J'ai jamais eu envie de faire la mise en scène. C'est une des raisons, je crois, pour lesquelles je me suis très bien entendu avec Chéreau et avec Bondy. C'est qu'ils savaient que dans mon esprit, il n'y avait pas le type qui allait leur dire, attends, c'est moi qui ai eu l'idée, là. Ça, j'ai jamais pensé à ça. J'ai souvent eu des idées de mise en scène. Chéreau a souvent eu des idées de décor, de lieu. On en parlait. On s'échangeait nos idées comme ça, mais personne n'a eu en premier l'idée, en fait. Il y a cette fameuse histoire du dernier spectacle qui n'a pas eu lieu. De Patrice, et je la garde comme ça en moi, comme une chose forte, et je suis en train de dessiner des choses là-dessus, des arbres et tout ça. On devait faire Comme il vous plaira de Shakespeare, avec Clotilde M, qui avait le rôle principal et qui était là ce jour-là, dans ce café avec nous. Et on avait un vrai doute, c'était comment dans cette pièce, dans cette comédie, de Shakespeare, et on allait évoquer la forêt. On jouait aux ateliers Berthier, donc c'était pas un théâtre à l'italienne, il fallait le faire dans une situation de gradin bifrontal où on voyait les acteurs le public. Et à un moment donné, je me suis dit, on peut pas faire de forêt, ça va être du carton-pâte, ça va être tout ce que je déteste au théâtre, ça va être une forêt de papier, on va voir que c'est pas une forêt, on va pas avoir peur et tout ça. Et je me suis dit, au fond, il faudrait que ce soit un arbre, cette forêt, qu'il soit un chêne, qu'il soit le représentant de toutes les forêts du monde, quoi. Le roi des forêts, comme le lion est le roi des animaux, on peut dire. Quelques jours, trois semaines, je crois, se passent, un mois, je sais pas. Patrice était déjà très très malade. Peu de gens le savaient vraiment, on s'en doutait et tout ça. Et puis, on se donne rendez-vous ce matin-là, près de Beaubourg, dans un café où il y avait aussi Clotilde avec qui il devait parler pour le rôle et tout ça. Et puis, elle était là. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, j'ose pas, mais je vais te dire, je pense avoir une idée pour la forêt. et je lui sors un dessin avec un arbre, et lui, il ouvre son agenda, il me sort une photo avec un seul arbre. Donc on s'était parlé sans se parler, chacun de nous avait pensé que la solution qu'on voulait adapter, c'était l'arbre, un seul. Clotilde n'en revenait pas, elle en parle encore, là je l'ai vu récemment, elle en parle encore de ce moment incroyable. Et puis, comme il vous plaira n'a pas eu lieu, parce qu'on sait pourquoi, et voilà.
Je voudrais qu'on termine cette émission avec l'amour.
Oui.
Parce que là aussi, on peut dire qu'il faut savoir saisir sa chance dans la vie. Vous avez réussi parce que vous êtes patient, Richard Peduzzi.
Vous croyez ? Je ne suis pas sûr.
J'aimerais qu'on parle de Pénélope et de cette histoire extraordinaire.
Ben oui, c'était j'ai rencontré Pénélope pour la première fois à Portofino. Et pour la première fois à Portofino. Et toute ma vie, tout autant que j'ai entendu mon père, il chantait I Found My Love in Portofino d'un chanteur italien qui s'appelle Fred Buscaglione. Il n'était jamais allé à Portofino, mon père, tout ça. Mais c'était un vieux rêve, il voulait aller à Portofino et rencontrer l'amour, ça lui plaisait, d'après la chanson. Et moi, j'étais avec... on nous avait prêté une maison sur la place du petit port de Portofino. Avec Chéreau, on était en train de préparer le ring. Et j'avais beaucoup de mal à dessiner. Autant j'avais cru, quand on avait signé notre contrat, que c'était facile, qu'on allait y arriver à toute vitesse, qu'on allait tout faire, tout ça. Et puis devant la page de papier sans rien, blanche, je calais, quoi. Je dessinais toujours le même décor. Et Chéreau me disait, mais avance un peu, passe à autre chose. Ça fait rien, rate, mais qu'on voit un petit peu le défilé de nos idées et tout ça. Et puis bon, je me sentais tout le monde. Il y avait plusieurs personnes dans la maison. On était 5 ou 6. Et je me sentais un peu traqué avec les questions. Alors, ça marche, ça avance, ça va être beau et tout ça. Je savais pas si ça allait être beau ou moche ou pas bien ou si j'allais tout rater. J'étais un peu paniqué. Et je descends pour prendre un café. J'étais avec une amie, je descends et je vois arriver une splendeur du port. Et je dis à la fille qui était avec moi, mais attends, mais qui c'est celle-là? Elle est incroyable. Et elle me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est une photographe. Elle est magnifique, mais elle est mariée, elle aime beaucoup son mari et tout ça. Et puis je vais lui dire bonjour, on se dit bonjour, là, tout ça, et on se voit, Pénélope et moi. Et puis je remonte, il y avait déjà Patrice qui était dans le jardin, il y avait un jardin dans cette maison en train la partition de l'or du Rhin ou de je sais plus quoi sous le bras, et qui me dit alors ça avance, et moi je lui dis j'ai rencontré la femme de ma vie. Il me dit mais comment? J'ai dit ben là en bas, là tout à l'heure, il y a 5 minutes, écoute, vraiment, c'est vraiment, je t'assure, hein, c'est vraiment la femme. Ouais, d'accord, bon, travaillons, me dit-il, et voilà. Et puis quelques années après, j'ai rencontré Pénélope, voilà. Pénélope, c'est la première personne que j'ai amenée au Havre. Et on a fait un reportage sur le Havre pour Key West, où il y avait les containers, où il y avait tout.
Donc
ça.
Key West, c'est le texte de Bernard-Marie Coltès, mis en scène par Patrice Chéreau, avec vous, Richard Peduzzi.
Oui, absolument. Voilà.
Je vais vous faire écouter une archive de Jacques Lacan, qui va parler de la mort.
Qu'est-ce que vous deviendriez si vous ne deviez pas mourir, non?
Ah, vous allez vous regarder, vous brûler, comme on dit aux enfants. En tout cas, l'archive de Lacan, c'est une archivina du 13 octobre 1972.
La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire?
Oui, c'était ça.
Voilà, c'est pas mal, hein?
Magnifique.
Non, mais parce que tout le livre, donc, je l'ai déjà joué demain, en partant du titre, d'ailleurs, en soulignant l'exergue, qui est absolument incroyable, qui est tiré, donc, d'un dialogue de John Cassavetes, que je vais citer. On peut faire quelque chose en partant de rien, de nulle part, sans compétences techniques et sans matériel. Jusqu'aux dernières pages de votre ouvrage, Richard Peduzzi, il n'est question que de cela.
Ah oui.
La mort. Elle vous a attendu plusieurs fois. Elle vous a donné des rendez-vous. Vous n'êtes pas passé loin. Hein.
Tout près.
Vraiment tout près.
Mais j'en ai pas voulu. Donc voilà.
Ah, vous pensez que c'est vous qui avez décidé ou c'est elle qui a décidé?
Ben, c'est elle qui a dit. Je sais pas. C'est ensemble. On a dû avoir un pacte. Attends un peu. Attends un petit peu.
Pourtant, les médecins vous avaient dit que bon.
Les médecins m'avaient dit. Les médecins m'avaient dit non. Heureusement qu'ils étaient là, les médecins, parce que je les vois toujours d'ailleurs, ces médecins. Ils ont tellement été extraordinaires avec moi que ce sont devenus des amis, quoi. Ils m'ont rassuré. Ils m'ont jamais caché la vérité, quoi. Et je savais que je me fiais à eux, qu'ils étaient tellement bons, que le chirurgien, le médecin qui m'a suivi, tous ces gens-là. Que j'avais pas du tout envie de mourir. Donc il y avait aussi ça, que j'avais pas envie de mourir, j'avais envie de faire plein de choses. Je trouvais en fait que cette transplantation du foie, c'était presque une plaisanterie, quoi. C'était surréaliste pour moi. C'était un truc il y a 22 ans maintenant. Et je prends absolument plus rien, aucun médicament, aucun machin, tout ça. Donc c'est aussi surréaliste tout ça. Donc il y a eu la mort, il y a eu aussi cette il y a eu quand même quelques fois quoi à Saint-Germain où j'ai senti que je la côtoyais avec un coup de poing dans le nez qui m'avait fracassé avec un type.
Alors ça c'est extraordinaire aussi, ouais. Cette histoire-là.
Incroyable.
Faut dire que bon, insulter les gens qui sont bourrés, c'est quelquefois dangereux, Richard.
Oui, je m'en rendais pas compte. Hein. J'avais 19 ans, 20 ans, je ne sais pas quoi. Il y avait un colosse derrière moi qui disait « qu'est-ce que je suis con, je peux être con ». Il était 3 heures du matin et je me retourne vers lui en disant « c'est sûrement vrai ». Toi. Et le type m'envoie un poing mais phénoménal dans la figure, comme ça. C'était un cascadeur, un peu voyou, je veux dire. Alors tout à l'heure, j'ai dit « je ne crois pas à l'honneur des voyous ». Mais alors celui-là, il avait une sorte d'honneur parce que je l'ai revu 6 mois après. Il a su que j'avais été à l'hôpital, c'était quelqu'un qui fréquentait Montparnasse, il a su que j'étais allé à l'hôpital, il a su que je l'avais pas dénoncé, et je le retrouve au Select, il me dit « Petit, tu t'es comporté comme un homme, t'es un truc de truand, quoi ». Donc, je me suis dit « Tu peux me demander n'importe quoi, quoi ». Donc, je me suis dit « Tiens, ce type-là, je l'avais pas balancé, comme on dit à l'époque, donc, comme on disait ». Et puis il en était reconnaissant, donc il m'a fait voir tous les honneurs tout cet honneur qu'il avait que les truands ont, paraît-il, auquel je crois pas. Moi. Enfin voilà.
Et la vie de maintenant, c'est peintre.
Pardon.
La vie de maintenant.
Je peins, je dessine beaucoup.
Et vous osez dire que vous êtes peintre.
Ouais, mais je dis rien, je le fais. Et puis surtout, je prépare aussi avec. Vincent Huguet, les décors pour Don Carlos, l'opéra de Verdi, qui est un des opéras les plus compliqués de Verdi. Et ça m'a beaucoup amusé de réfléchir à ça en ce moment, parce que je me suis dit, avec cette période de Covid, avec cette période de restriction, on va plus pouvoir faire les mêmes décors que ce qu'on faisait il y a 2-3 ans, il y a 5 ans, aussi lourd, aussi compliqué, avec autant de moyens, avec autant de machinistes qui servent le spectacle, avec tout ça. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, il faudrait, sans faire marche arrière, au contraire, c'est toujours l'histoire du temps, faire un bond dans le temps, et aller voir en arrière ce qui se passait avec l'histoire même de la scénographie, des marins, de la marine, des voyages, des voiles, de la légèreté, tout ça. Et tout le décor de Don Carlos est fait, et... En même temps, en essayant de quand les voiles se rapprochent, d'en faire des blocs qui semblent très très lourds, et alors que tout ça est très léger et s'évapore comme ça. Donc j'ai essayé de travailler sur un vieux rêve que les décors de théâtre doivent être un tour de passe-passe, et j'espère, on va voir avec Vincent maintenant, que le spectacle est en février à Bâle.
Peintre, décorateur de théâtre, mais aussi écrivain, voici comment se termine votre livre, Richard Peduzzi. Quels sont ces lieux, où sont ces lieux, quels sont ces ciels, ces lunes et ces nuages? D'où viennent ces bateaux perdus au milieu de l'océan qui ne se décident pas à couler? Ces lignes et ces couleurs indéterminées rencontrées en marchant quelque part, ou bien assis sur une chaise, en rêvant, ou peut-être la nuit, en dormant. Souvenirs oubliés, jamais vus, enfouis au fond de moi, dans la dernière résidence de la mémoire. Mais vous en avez plusieurs de mémoire.
Oui, je pense. Je me dis parfois j'ai plusieurs vies aussi.
Ben, voilà. Peut-être 1003.
Peut-être, va savoir.
Merci beaucoup Richard Peduzzi.
Merci
à vous. Je rappelle que votre très beau livre s'intitule « Je l'ai déjà joué demain » et qui vient de paraître aux éditions Actes Sud.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire. C'est la fin.
Le dernier jour du disco de Juliette Armanet que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Julien Dumont qui est à la régie technique ce soir. Merci Richard Peduzzi. Je rappelle que votre livre vient de sortir et qu'il s'intitule « Je l'ai déjà joué demain » et qu'il est publié aux éditions Actes Sud. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.